je pense qu'un des éléments importants de Liberté à l'aube, c'est que Alexandre Voisard l'a soumis à Chappa. Chappa avait des entrées non seulement dans le Valais, mais également à Lausanne et auprès des journalistes. Donc c'était déjà un écrivain reconnu et Chappa a écrit des articles vraiment magnifiques en ce qui concerne le Jura et Liberté à l'aube. Il a d'ailleurs fait une introduction qui est superbe. Et ce mouvement libertaire, oui, libertaire, on peut dire ça, hein, a été la courroie de transmission par les écrivains que connaissaient Pablo Cuta, Jean Cuta, Alexandre Voisard. Ça s'est développé en Suisse romande, sous la férule de Galland et des journaux. Alors les journaux lausannois et genevois ont pris des positions qui étaient extrêmement claires. Donc on a eu le sentiment que nos écrivains avaient conquis le cœur des écrivains romands. Et la plupart de ces écrivains sont devenus des gens qui ont eu une importance considérable. Ce n'est pas les seuls, hein, ce n'est pas eux qui ont créé le Jura, mais c'était des voix importantes dans les journaux romands.
Quelque part, cet objet littéraire, Liberté à l'aube, il est aussi devenu un manifeste à vous entendre, pas seulement pour les jurassiens, mais aussi pour mieux faire connaître à l'extérieur la lutte des jurassiens.
Oui, c'était surtout probablement un des rares textes considérés comme politiques. Maintenant, quand je le relis, je dis que c'est plus important que simplement le problème jurassien, parce qu'il est universel, c'est une voix quasi universel. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une voix, c'était l'importance du verbe. Alors, je crois qu'on ne s'est jamais aussi bien rendu compte de l'importance du verbe, qui avait une influence considérable sur les gens. Et que la poésie soit à la fête du peuple, soit dans les arrières-salles des bistrots des villages jurassiens, c'était extraordinaire. Ça n'existait pas en Romandie. Et les écrivains romans, ils n'étaient pas jaloux, mais ils considéraient que la littérature devenait enfin quelque chose de populaire qui pouvait avoir une influence importante, même politique.
Et eux-mêmes, ces écrivains romans, devenaient quelque part un petit peu les avocats sur leur terre de la cause jurassienne.
Oui, c'est sûr. Les relations entre les écrivains jurassiens et les écrivains romans, ces relations ont été très denses à cette époque. Mais c'est surtout leur influence auprès des journaux romans. C'est les journaux romans qui relayaient, au fond, la parole de des Chessé, des Chappa, des Corinabille, des Bourgeot, etc. De ce côté-là, ça a été relativement important. On ne faisait pas de politique, hein, mais c'était quand même quelque part de la politique. Mais ce n'était pas une politique politicienne pour atteindre le pouvoir. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait simplement à convaincre les romans, puis les Suisses, qu'il fallait réparer, ce qui avait été absolument arbitraire en 1815, et qu'on avait un peuple qui avait une histoire. Un État est constitué d'un peuple, mais ce peuple doit avoir une histoire commune. Il faut aussi rappeler ça. Et 64, c'est Pierre-Olivier Walser sort l'anthologie jurassienne, et l'anthologie jurassienne démontre que le Jura a une histoire, que l'évêché de Bâle a une histoire. Donc ce peuple reconnu en 50 avait sa propre histoire, donc était capable de créer un État, d'où la grande idée, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc pour nous, on avait deux points. 1815, réparer l'arbitraire, et puis un peuple qui avait le droit de disposer de lui-même. On n'allait pas au-delà.